débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Augustin Landier, professeur à HEC, co-auteur du prix de nos valeurs. Quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion, on va faire le prix de la dette un de ces jours. Tiens. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Il y a Guy qui m'écrit, comme élu local, je peux vous dire que M. Petit parle d'or au sujet de l'aspect sociologique des dépenses des collectivités.
Merci, monsieur.
C'est Guy qui m'écrit ça. Ça y est. Alors, 2012, tout le monde se dit, oh là là, le triple A s'en va, c'est catastrophique. Et puis, off, le triple A est parti, on n'a rien vu, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de drame sur les marchés, on a continué à mettre nos obligations sur la place publique comme des petits pains. À votre avis, c'est cette fois-ci, Augustin Landier, le 26 avril, que cette fois-ci, il y a une dégradation et que cette fois-ci, elle fait mal?
Bah, ce qui est sûr, c'est que la France est beaucoup plus sous les projecteurs. La raison pour laquelle la France est passée entre les gouttes après la grande crise des années 2010, c'est que les projecteurs étaient sur les pays du Sud et que il y avait un débat sur où est la France, etc. Mais il y avait bien pire que nous. Donc là, la situation change. C'est-à-dire que on devient le sujet, en fait, de
ça. Oui, il y avait les pigs. On n'était pas dans les pigs.
Ouais. Donc, c'est un gros changement. Mais encore une fois, je pense que la contrainte est nécessaire à l'implémentation politique de réformes. Ces réformes ne peuvent avoir lieu que sous la contrainte externe. Donc, il y aura un jeu.
C'est terrible de dire ça. Parce qu'en plus, on sait, Augustin, que lorsqu'on a un warning de marché, et un jour, par le menu, Christian Parizeau nous avait expliqué comment, en moins d'une semaine, la situation s'installe et se dégrade considérablement. C'est là où vous prenez des décisions d'urgence. Et c'est pas, vous dites pas, je vais réformer le mode de fonctionnement de mon éducation nationale. Non, vous prenez des décisions d'urgence et généralement, c'est des décisions pénibles.
Mmh. Puis le Portugal l'a fait.
Ben oui, voilà. La Grèce l'a fait. Je vous ai
sur des tensions,
j'ai rappelé la potion grecque ici. C'est un truc. Enfin, si on dit aux gens qu'on baisse le salaire minimum, qu'on baisse les pensions de retraite, je sais plus ce qu'il y avait encore, qu'on augmente la TVA de 2 points, là, comme ça, en l'espace de 10 jours, mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Parce que ça, c'est redoutablement efficace. Hein.
Mais regardez ce qui se passe en Argentine aujourd'hui aussi. Hein.
Ah ouais.
Voilà. Non, mais bon.
J'avais comparé la France et l'Argentine.
Oui, mais enfin, est-ce qu'on peut continuer à faire la comparaison France-Argentine, Jean-Marc?
Non. Mais
s'il y a des éléments de comparaison intéressants.
C'est comme les LR qui ont dit oui, la France c'est la Grèce. Non, enfin.
Tu sais pourquoi elle est défendue? Je veux dire.
Bon, alors.
Pourquoi elle est défendue, la France, par les investisseurs? C'est que c'est pas seulement... D'abord, elle est systémique. D'abord, on fait partie de l'Union monétaire européenne. Mmh. La France est systémique. Donc, s'attaquer à la France, c'est s'attaquer à l'Europe, puisqu'elle fait 20% du PIB de la zone euro. Elle est supposée liée à l'Allemagne à travers le mythe du couple franco-allemand. Mmh. Elle a un discours toujours pro-européen, des élites politiques françaises, archi-majoritairement. Et c'est en plus, dans le cadre actuel, une grande puissance militaire, politique, militaire et nucléaire. Donc ça la protège un peu. C'est des aspects extra-économiques, mais qui la protègent un petit peu. Alors tu as parlé tout à l'heure de...
Jean-Marc, une protection essentielle, c'est qu'elle est extrêmement endettée, la France.
Ouais.
Et donc que les investisseurs, s'ils veulent se débarrasser de la France,
c'est très compliqué
parce qu'il n'y a pas de produit alternatif. Et donc c'est un placement par défaut. Et la taille de la dette... est une protection parce que les investisseurs peuvent pas la revendre pour acheter autre chose.
Je suis pas contre ce que tu viens de dire.
Voilà. Je pense que c'est un point essentiel.
C'est-à-dire qu'en fait, too big to fail, Jean-Marc. Là, il y a tellement de dettes françaises qu'on a quand même pas intérêt à ce que ça parte en vrille parce qu'on n'a pas envie de laisser notre chemise.
Pas intérêt. L'investisseur, quand il vend, il faut qu'il achète autre chose.
Oui.
Et quand vous vendez 100 ou 200 milliards de dettes grecques, vous pouvez acheter autre chose. Quand vous vendez 1500 milliards de dettes françaises, c'est très compliqué d'acheter 1500 milliards d'autres choses, sauf à accepter des rendements qui sont complètement cassés. Et donc, c'est une protection qui est très puissante.
Tu parlais de warning tout à l'heure, Nicolas.
C'est la question. Enfin, c'est
les warnings, tu les as déjà. Le spread entre la France et l'Allemagne est passé de 25-30, il y a 2 ans, à un peu plus de 2 ans, à environ 50.
Oui, mais c'est ça, environ 50.
Attends. Faut regarder ce que nous dit Monsieur Marché. Le spread entre
Monsieur
la
Marché,
France...
c'est Monsieur Marché financier.
Obligataire.
Oui, Monsieur Marché
la
obligataire.
France, le spread entre l'OAT et le BTP italien diminue assez considérablement.
Le BTP, c'est le nom de l'obligation italienne. Oui, parce que
le
BTP,
espagnols,
ça veut dire aussi autre chose.
Oui. L'emprunt espagnol aussi. Le spread avec l'emprunt espagnol baisse. Donc ça, c'est des petits warnings, déjà, qui devraient un petit peu nous faire réfléchir. Alors ensuite, il y a les agences de rating. Tu l'as dit, il y en a eu 7 dégradations depuis 2012. impact sur les marchés, que dalle.
Ben ouais.
Pourquoi cette fois-ci, il pourrait y avoir un impact un peu plus fort ? D'abord, un, je l'ai dit tout à l'heure, le ratio de dette publique est plus élevé qu'avant. On est à 110, la moyenne de la zone euro, c'est 20 points de moins, alors qu'il y a 10 ans, on était à égalité à 93. Donc ça, c'est première chose. Le gros dérapage de 2023, alors là, c'est un truc un petit peu embêtant. On passe de 4,9 à 5,5, alors que les prévisions de croissance nominale sont à peu près en ligne. Ça, c'est embêtant. Troisième chose, si tu prends la liste des pays européens qui ont le même rating que la France, en Europe de l'Ouest ou en Europe centrale, le même rating, ils sont tous, au moins pour l'un des deux ratios, déficit public sur PIB ou dette publique sur PIB, en dessous de la France. Donc normalement, si on applique la comparaison, tu dois dégrader. Alors dégrader, alors après, quel impact sur le spread ? Un petit impact, probablement pas dramatique à horizon des deux prochaines années, parce que si tu prends les quatre éléments de l'équation de soutenabilité, le solde primaire va quand même diminuer. Il était à 3,7 l'an dernier, hein. Déficit primaire de 3,7. On peut diminuer à 2,5 sans trop avec les 10 milliards, les 20 milliards qu'on va trouver ici ou là. Mmh. Le taux d'intérêt apparent ne progresse que très graduellement. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que le taux d'intérêt apparent, c'est lui qui compte. Et c'est le taux de refinancement sur l'ensemble du stock de dette. Et donc, le stock de dette, y compris qu'on a émis il y a 4, 5, 6 ans à des taux à zéro. Donc, il progresse. Il était à 2% l'an dernier. Il va monter progressivement à 2, 3, etc. Mais c'est lent. Hein. Le solde primaire, j'ai dit, on peut le baisser vers 2,5, 2 à horizon 2 ans. La croissance nominale, cette année, on est à 3,5 à peu près, ça tient la route. 3,5, c'est-à-dire on a 1%.
La croissance, avec en incluant l'inflation.
Voilà, en incluant l'inflation. Et on tient à peu près la route pour maintenir, je dis bien maintenir, pas faire baisser, maintenir le ratio dette sur PIB entre 110 et 113. À peu près. Le vrai problème, c'est ce que je disais, je reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les perspectives structurelles qui sont très, très, très contraignantes.
Donc le message, c'est que cette dégradation n'est pas forcément plus dramatique que les précédentes.
Mais elle, le warning commence à devenir...
Jean-Marc Vittori ou Augustin Landier sur ce sujet. Là.
D'abord, quand vous lisez les attendus des agences de notation, alors justification de la notation de la France, il y a toujours la stabilité des institutions politiques et du cadre juridique de la France. Toujours. C'est toujours mentionné. Mmh. Et effectivement, si ça bouge, si on va dans un scénario politique qui devient totalement imprévisible, ça peut changer très rapidement. Et le deuxième point, justement, c'est que quand vous regardez l'économie, on a tendance à penser à des ajustements subtils. C'est pas du tout ça qui se passe. Il y a ce que les économistes appellent des équilibres multiples. On passe soudain d'un équilibre à un autre. Et ce passage peut être très violent. C'est ce qui s'est passé pour la Grèce. La Grèce, les agences de notation ont commencé... Savez-vous quand est-ce que les agences de notation ont commencé à baisser la note de la Grèce, qui était moins forte que celle de la France? Elles ont commencé en 2004. Hein, et pendant de 2004 jusqu'à fin 2009, quand il y a eu l'aveu d'un déficit deux fois plus fort que prévu, il ne s'est rien passé. Et puis 2009, il y a une petite information, a priori, on s'est planté, on n'a pas 6%, on a 12% de déficit. Et là, bling !
Et on
passe d'un équilibre à un autre en une semaine, deux semaines. La Grèce, qui levait chaque semaine des milliards et des milliards d'euros,
pratiquement au prix de l'Allemagne,
ne peut plus le faire du jour au lendemain. Et donc l'effet est extrêmement brutal. C'est quand vous regardez les courbes,
c'est très particulier, le cas grec.
Non, mais
vous imaginez pas Bruno Le Maire dire c'est pas 5,5, c'est 12, non, c'est 11, on s'est planté.
Regardez le 8e siècle en France. La France se finance sans problème face à l'Angleterre. L'Angleterre fait une démocratie pour contrôler ses finances publiques et donc elle emprunte de moins en moins cher que la France. L'écart se creuse entre les deux. Tout ça se passe très bien, sauf qu'il y a un moment, en 1789, il y a eu deux années très dures de sécheresse. On n'a pas réussi à faire rentrer l'impôt, CF sujet précédent. Et qu'est-ce qui se passe ? On a une révolution. On a eu un équilibre qui a duré pendant des décennies, et puis il y a eu un événement qui a fait que tout a basculé. Et donc, ce qui peut se passer demain, c'est... C'est pas le fait d'avoir une notation du passage d'un cran de notation, etc. C'est qu'il y a un moment où le paysage bascule brutalement. En fait, et plus la situation de la France se singularise, et là, elle se singularise. Hein. On n'est pas dans le peloton. Il y a 10 ans, je crois qu'il y avait 10 pays qui avaient une dette publique rapportée au PIB égale ou supérieure à celle de la France. Maintenant, il y en a plus que 2. Hein,
la Grèce et l'Italie
dans la zone euro. Donc, on voit bien qu'il y a même une singularité française. Donc, il y a un moment où ça peut péter beaucoup plus fort en France qu'ailleurs.
Vous êtes d'accord, Augustin Landier, avec l'idée qu'il est un peu minuit moins 5 là dans ce qu'on décrit en fait. C'est que c'est bon. On va pas tous se retrouver.
On sent la contrainte, on sent un peu le vent du boulet. Donc Jean-Marc a raison de dire qu'il y a des discontinuités très fortes pour les entreprises aussi. Hein, ça fonctionne pareil. La banqueroute d'une entreprise, c'est très rapide en fait. Il y a un moment où c'est autoréalisateur, le fait que le marché ne fait plus confiance, l'entreprise est donc condamné à commencer à liquider pour continuer à payer sa dette existante, ses salaires, etc.
C'est pas de la théorie économique, hein. On l'a vu très récemment sur des entreprises comme Casino, Orpea. Voilà.
Donc c'est des mécanismes qui sont connus et qui sont même intuitifs pour les gens, parce que même la banque personnelle, en fait.
Augustin Landier, un État ne va pas au tribunal de commerce, on n'envoie pas une lettre de licenciement à sa population, c'est un peu particulier tout de même.
En tout cas, mais quand ça casse, ça casse.
Et quand ça casse, ça casse.
En tout cas, la France est un petit peu à la question aujourd'hui. C'est-à-dire que les marchés regardent ce que Bercy est capable de faire en fait pour réajuster le tir. Il s'avère que c'est impossible à gérer, là la réaction sera violente. Donc tout va dépendre. C'est là que des petits ajustements sont en réalité considérés comme symptomatiques de ce qui passe encore politiquement en termes de hausse de taxes possible ou pas, et puis réforme des dépenses, baisse des dépenses. Est-ce que ça passe ou pas? Si effectivement le constat c'est que le terrain politique est complètement miné, là les marchés peuvent retirer leur confiance assez vite.
Il y a l'aspect effectivement crise politique qui s'ajouterait aux difficultés macroéconomiques. Est-ce que vous considérez que la séquence de ce début d'année avec le décret à 10 milliards et une nouvelle réforme de l'assurance chômage, c'est un gage de sérieux et qu'un investisseur avisé se dit « bon, voilà quand même, ils ont pris le taureau par les cornes » ou en fait non.
Si sur l'assurance chômage ça passe, ça sert un peu de prototype à ce que peut être la suite en cas de nécessité.
Si vous me dites que l'assurance chômage c'est qu'un début et que c'est un prototype, ça va être...
Et de toute façon ce n'est qu'un début, mais bien sûr.
C'est un prototype, hein. Je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut le voir.
Une autre réforme des retraites d'ici quelques années. Là,
oui, mais après 2027. Non, mais ça veut dire dans ces cas-là qu'il faut prendre Bruno Le Maire au mot. Ça veut dire que l'État-providence tel qu'il existe, c'est fini, qu'il faut passer à autre chose.
Ouais. On a le record de dépenses sociales.
Oui, mais voilà, mais est-ce que c'est possible d'imaginer que le pays le supporte?
C'est pour ça que moi,
la contrainte
des marchés, j'aime pas trop, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a un choc au niveau des marchés? Le taux d'intérêt explose.
Oui, oui. Ça peut se faire en une semaine.
T'es obligé de couper de façon brutale et sans réflexion, effectivement, de façon inefficace, puisqu'on le voit bien, en Espagne, les dépenses d'éducation, par exemple, ont beaucoup baissé. C'était pas du tout efficace dans une optique de moyen long terme. Donc tu le fais de façon inefficace. C'est récessif. Tu rentres en récession. Alors là, t'as le taux d'intérêt apparent qui est largement au-dessus de la croissance nominale, pour le coup. Alors là, c'est pas une réduction des déficits primaires qu'il faut que tu aies. C'est des excédents primaires. Comme d'ailleurs l'Italie, qui s'y connaît, et qui s'y connaît mieux que tout depuis 40 ans.
Qui est en excédent primaire.
Sauf choc, qui est le plus souvent en excédent primaire. Et qui a réussi à stabiliser à peu près, tant qu'elle a pu, jusqu'à présent, à stabiliser, voire même un petit peu à réduire, le ratio de dette publique. Elle traîne son boulet de dette publique, comme ça, depuis plus de 40 ans, là, l'Italie. Quand il y a eu la ratification du traité de Maastricht, en 92, les Allemands nous disaient qu'elle ne rentrerait jamais dans l'euro parce qu'elle avait déjà 125% de dette publique par rapport au PIB. À l'époque, nous, on était à 50, nous, Français. Voilà. Donc, on va se trimballer avec ce truc-là pendant des années et des années.
Mais c'est ça qu'il faut avoir. Comme vous dites, Jean-Pierre, et comme disait aussi Augustin, il ne faut pas attendre que ça casse. Si on attend que ça casse, le jour où ça casse...
Puis alors, politiquement, la stabilité c'est quand des même... institutions, pour reprendre ton expression, là, je demande à voir. Hein.
Non, mais là, ce qui est...
Vous avez vu la réformette des retraites, vous avez 6 mois d'émeute en France. Enfin, de quasi-émeute en France.
Mais parce que les gens avaient la conviction qu'il n'y avait pas de contraintes. Donc, c'est là que c'est très important, effectivement, d'aider à créer l'anticipation.
Les gens, ils veulent protéger leurs trucs, c'est des rentes, c'est tout. Enfin, voilà... C'est tout.
Mais il va falloir réécrire.
C'est une question de contrainte.
On sent bien que fondamentalement, il faudrait réécrire totalement le système le modèle social, qui aujourd'hui n'est plus finançable. Mais je ne sais pas comment on fait passer ça auprès de la population. Quand on a habitué la population à avoir l'État à peu près présent à tous les niveaux, à tous les instants de nos vies, au moindre choc. Finalement, l'État qui est un assureur immédiat du moindre aléa de l'existence, c'est très très difficile d'imaginer qu'on fait autrement.
Quand on regarde les sondages sur les européennes, on voit que la gauche, qui tient le discours le plus laxiste au niveau des finances publiques, fait à peine au-dessus de 25. Quand même, alors que... Elle tient quand même un discours. Et d'ailleurs, la présidentielle est guère plus.
Il ne faut pas qu'à la dette, au déficit, au ralentissement de la croissance potentielle, s'ajoute un choc politique.
Parce que,
on a eu les chiffres d'inflation, Augustin Landier, ce matin. Là, juste, ça ralentit. Comment vous regardez le ralentissement de l'inflation? Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, de donner raison au gouverneur de la Banque d'Italie qui dit bon, il faut baisser les taux. Peu importe si les salaires augmentent.
Bah en tout cas, oui, le sujet inflation, qui était quand même très aigu, hein, il n'y a pas si longtemps, c'est impressionnant la vitesse en fait, à laquelle les sujets sortent en fait, du débat ou des anxiétés. Ouais. Donc là, effectivement, le consensus, c'est que le sujet est derrière nous. Après, la crise énergétique, elle peut être ravivée assez vite. Enfin, il y a toujours, au fond, finalement, on s'est aperçu que c'était vraiment un sujet, en Europe en tout cas, essentiellement lié à la question énergétique. Donc il y a eu un aspect très temporaire qui était lié à un problème de gestion de stock immédiat. Après, qu'est-ce que doit faire la BCE? Bah là, on retombe sur le sujet d'avant, en un sens. Hein. C'est-à-dire que c'est important que la BCE ne donne pas trop de mou. Et donc, c'est important de laisser s'installer, en un sens, le sujet de la responsabilité fiscale avant de commencer à donner du mou. Enfin, je pense que c'est aussi comme ça que la BCE raisonne. Elle a des contraintes de politique économique à prendre en compte et également l'idée que c'est pour le cas d'un pays comme la France d'essayer de mettre un petit peu la peur de l'arrivée du Rassemblement National, de la lier à un thème économique, quoi, que les gens se disent ça va être la catastrophe économique. Si la Banque Centrale donne du mou, cette peur-là sera moins présente.
C'est-à-dire qu'en fait, vous me dites que dans politique monétaire, il y a vraiment politique, quoi.
Mais il y a la politique économique.
Oui, oui, mais ça veut dire que la Banque Centrale Européenne peut aussi, dans son mode, dans son raisonnement, se dire, si je lâche du lest, les budgets vont repartir en vrille et ça va déraper.
Ils l'ont en tête, ouais.
Sur une baisse des taux plus rapide que prévu, peu importe les hausses de salaire, Jean-Pierre Petit.
Moi, je pense que compte tenu des principaux paramètres de la BCE, elle peut baisser ses taux 4 fois. Et donc le taux de facilité de dépôt passait de 4 à 3, et à mon avis, il le fera le 6 juin. Depuis plusieurs mois, c'est ce que je dis, la première baisse des taux aura lieu, d'ailleurs, c'est intéressant, elle aura lieu avant la Fed, à mon avis. Voilà. Donc, et ça, c'est assez exceptionnel.
C'est ce qu'a laissé entendre François Villeroy de Galhau en disant qu'il y aurait une première baisse au printemps, mais disant que le printemps
le
était
juin,
bel et bien une saison. Bel et bien,
juin,
oui.
On est au printemps.
Voilà. Il a dit attention, le printemps, c'est une saison qui va effectivement, qui quand même court jusqu'au mois de juin.
Non, mais...
Et compte tenu des publications des fameuses data qui servent de boussole actuellement aux décisions de politique monétaire, quand vous prenez les prochaines publications, elles nous amènent quasiment pour des histoires d'agenda mécaniquement aux alentours de.
Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la Fed, elle a dernièrement, malgré une croissance à 2,5% et qui pourrait même un petit peu accélérer, une inflation qui se balade, enfin ça dépend les définitions qu'on prend, si on prend la PCI, CPI, etc., mais qui se balade à 3 à peu près, elle a tenu à garder ses 75, enfin dans les dots de la Fed, elle a tenu à garder ses 75 points de base de baisse, alors qu'on aurait pu penser qu'elle réduise un peu. Pourquoi, selon vous? Elle est très satisfaite d'une chose, c'est les gains de productivité. C'est la meilleure nouvelle depuis 3 trimestres. Les gains de productivité tout à fait assez exceptionnels et qui fait que les augmentations de salaire à 4, ils se transforment en coûts salariaux unitaires, si tu lisses un peu parce que tu ne vas pas prendre les derniers chiffres, à 2 même pas. Donc en fait, le principal vecteur de l'inflation sous-jacente aux États-Unis comme en Europe, c'est les coûts unitaires du travail.
Ouais, et
coûts unitaires du travail sont en décélération très nette.
C'est ce qui est en train de nous... C'est l'écart qui est en train de se creuser entre l'Europe et les États-Unis.
Ouais. Ou alors il y aura peut-être des révisions à la hausse de productivité.
Est-ce que vous êtes inquiet de la panne allemande?
Ah ouais, surtout.
Ouais, Augustin Landier.
Ce qui m'inquiète, c'est l'impression d'un manque de rationalité dans le cadre allemand, enfin, de pas avoir un interlocuteur sur les questions énergétiques, sur le nucléaire, sur les questions budgétaires. On avait l'habitude, en fait, de voir l'Allemagne un petit peu comme l'avocat de la rationalité, et donc c'est ce rôle-là qu'elle joue pas, en fait, dans la période actuelle. Ça, c'est un peu nouveau. Ouais.
C'est pas rationnel, selon vous, de respecter le frein à l'endettement et, en dépit d'un ralentissement d'activité, de refuser de creuser son déficit budgétaire?
Ouais, c'est étrange, en tout cas.
C'est étrange, ouais. C'est allemand.
Non, mais on paye, c'est pas Scholz, là, on paye les années Merkel, fondamentalement. C'est des erreurs stratégiques monstrueuses qu'elle a faites. Et voilà, sa stratégie énergétique, c'est un échec invraisemblable. Sa stratégie sur l'immigration, l'AFD n'a jamais été aussi élevée. En plus, il y a une portion de l'AFD qu'on peut qualifier d'extrémiste. Donc le pays est en situation économique, certes, mais également en situation politique, je trouve, assez instable. On n'avait pas vu ça depuis les années de réunification, où je vous le rappelle, hein, c'était les années de plomb pour l'Allemagne, les années 90, parce que le coût de la réunification était considérable. Au début des années 2000...
L'époque où la France était devant l'Allemagne, oui.
Évidemment. Oui, la France, mais plus que grâce à un affaiblissement de l'Allemagne que la Russie française.
L'Allemagne, elle a depuis longtemps des faiblesses structurelles, donc une faiblesse démographique, une faiblesse, une puissance industrielle, mais qui est fondée sur l'automobile. Or, on a une mutation automobile majeure, et ça date pas d'hier. Et une faiblesse du sous-investissement public aussi massif, pour les raisons budgétaires évoquées. Ce qui s'est passé avec la séquence qu'on a vécue ces cinq dernières années, d'abord, il y a eu la séquence Covid, où elle a été relativement moins touchée par le virus que notamment la France et l'Italie. Et puis, la séquence Covid, elle a favorisé la production industrielle. Hein. Et donc, la production industrielle, ça favorise l'Allemagne. Donc, effet Covid plutôt favorable relativement à l'économie allemande. Et puis, l'effet guerre en Ukraine, c'est exactement l'inverse. Hein, puisque on a les prix de l'énergie qui flambent. Il y a un industriel français qui dit l'Allemagne, elle achetait du gaz russe pour vendre des voitures à la Chine, pour fabriquer des voitures vendues à la Chine.
C'est pas mal.
Et on voit bien que le gaz russe finit et les ventes de voitures à la Chine, à la fois parce que les voitures... On change de modèle bien au-delà de la voiture.
Non mais tu vois,
voilà.
Merkel ne l'a pas vu, ça, tu vois.
Et la Chine. On voit bien que. On a des faiblesses structurelles qui sont amplifiées par ce qui s'est passé depuis l'invasion de l'Ukraine par la
Russie. Quand je parle de Merkel, Merkel n'a pas vu ça. Poutine est quand même aux affaires depuis 1999 en Russie. Il a durci le discours contre l'Occident à partir de 2007-2008. Le pays était déjà plus démocratique. Je veux dire, la Chine, Xi Jinping a été nommé fin 2012 quand même. Trump a été élu fin 2016 sur un discours anti-allemand, enfin anti-automobile allemande, on va dire. Voilà. Donc elle aurait pu réagir.
Ça remonte même avant Angela Merkel, puisque rapprochement avec la Russie a été notamment mené par Gerhard Schröder, qui était le prédécesseur d'Angela Merkel, qui ensuite a travaillé pour Gazprom, qui est le fournisseur, le producteur russe de gaz. C'est une histoire très longue.
En tout cas, les Européens ne peuvent pas se réjouir des difficultés de l'Allemagne, très clairement.
Ah non.
Bah oui, c'est à peu près évident. J'ai une auditrice, Marie, qui me dit « Je ne supporte plus vos intervenants qui disent « On a le record de la dépense sociale sans dire immédiatement derrière qu'il faut qu'on a aussi le record des prélèvements sociaux. » Bon, je crois que on le dit...
Oui.
Alors, on va
forcément une solution.
Jean-Marc, on va terminer avec... C'est à la une des échos. Il n'y a que vous qui parlez de ce sujet aujourd'hui. Proposition de loi, Damien Abad, visiblement, soutenue par le gouvernement, qui va imposer... un agenda de verdissement du parc automobile aux entreprises, et celles qui ne respectent pas l'agenda, eh ben elle paiera des amendes. Oui, on dirait, quelle conclusion?
C'est un levier méconnu de la transition, les flottes des entreprises. Dans l'article que je vous conseille de lire, dans mon journal Les Échos, il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est les entreprises qui ont des flottes de plus de 100 voitures, hein, que soit parce que c'est des loueurs, soit parce que leur activité les amène à avoir beaucoup de voitures pour leurs salariés. Et ces entreprises, elles achètent 60% des voitures en France. Et donc, c'est un levier très, très puissant pour accélérer la transition. On peut aussi soutenir, alors là, je vais pas forcément me faire des amis, mais que les entreprises ont souvent un peu plus de latitude que les particuliers pour organiser leur financement pour pouvoir s'acheter une voiture électrique. Et donc, il y a là un levier intéressant. C'est intéressant de voir que le gouvernement, un député met derrière le gouvernement, apparemment est plutôt favorable à cette mesure. Donc le gouvernement s'engage dans cette voie-là.
Mais c'est,
le problème,
c'est encore de la contrainte, c'est encore de la complexité.
C'est ce que j'allais dire. C'est pas de la complexité. Le problème, c'est de voir où est-ce qu'on fixe la limite par rapport aux capacités de production. Parce que si on a une mesure qui est mal calibrée, qui va profiter de cette mesure? C'est exclusivement les constructeurs automobiles chinois, ce qui n'est pas forcément la meilleure mesure pour décarboner la planète. Hein. Donc je trouve qu'il y a un levier intéressant. Ça peut être une bonne idée de l'actionner, mais il faut beaucoup de prudence dans la façon de l'actionner.
Vous avez raison de rappeler le poids des véhicules de flotte d'entreprise dans les ventes de véhicules en France. Tous les mois, on donne les ventes de voitures. Tout le monde s'imagine que ce chiffre, c'est le gentil particulier qui immatricule sa voiture.
Et c'est un effet de second tour, parce que ces voitures sont souvent achetées pour 3 ou 4 ans. Et donc ensuite, ça nourrit un marché de l'occasion sur les lesquels les particuliers sont beaucoup plus présents, et donc ça peut accélérer l'électrification du parc. Donc il faut vraiment voir l'histoire dans son ensemble.
J'ai été plutôt un peu, je me suis dit, oh là encore. Et en fait, bon, vous avez
des... Il faut le faire prudemment, attention. Hein.
Ça vous semble bien de mettre une proposition là pour tordre le bras des entreprises pour qu'elles verdissent leur parc auto?
En tout cas, ça contredit l'agenda de simplification de Bercy. Donc, c'est un peu inaudible.
Sauf si c'est très simple. Mais...
Hein. Franchement, c'est pas compliqué. Bah,
si, bien sûr que si. Bah, ça va être des
il va y avoir des exceptions.
Il va falloir avoir un monsieur voiture.
J'ai vu que les loueurs voulaient être exemptés. Parce que eux, c'est un parc automobile, c'est juste le fonds de commerce, quoi.
Oui, et puis on le voit aux États-Unis, hein, les particuliers n'ont pas très envie de louer des voitures électriques parce qu'il n'y a pas encore des bornes partout.
En tout cas, ça va dans l'esprit de rajouter des normes qui, prises individuellement, ont du sens. Mais après,
c'est quand même de la norme, oui. C'est quand même de la norme, c'est quand même de la contrainte, c'est encore du verre punitif. C'est encore du verre punitif.
C'est dans l'esprit du temps, quand même.
Oui, partout, finalement, on voit que toutes les contraintes et toutes les punitions liées à la transition verte, devant les résistances populaires ou les résistances de secteurs économiques, ont fini par faire machine arrière. On finit. Donc là, on s'apprête à en mettre une nouvelle. Alors que moi, je prends le...
Oui, mais si on veut accélérer l'électrification du parc automobile, on ira peut-être beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace en agissant par là qu'en agissant sur les particuliers. Voilà, c'est... il faut faire un choix. Et y compris en termes de complexité, de simplicité globale, je ne suis pas sûr que ce n'est pas plus simple d'avancer par les entreprises plutôt que par les particuliers.
On a une minute. Bon, je ne vais pas ouvrir le sujet de l'opération Beethoven. C'est joliment nommé, hein. Et les Pays-Bas qui mettent 2,5 milliards d'euros sur la table pour essayer de convaincre ASML, la première entreprise technologique d'Europe, de ne pas partir. Et ASML menace de partir parce que l'extrême droite a été victorieuse des législatives en 2023 en disant qu'il fallait qu'il y ait moins d'immigrés. Et ASML dit, moi si je n'ai pas les étrangers, je ne peux plus faire travailler faire tourner mon usine d'Eindhoven. J'ai 20 000 salariés, j'ai la moitié qui sont des étrangers. Voilà.
Mais est-ce que le gouvernement néerlandais a vraiment pris des mesures?
Ah oui, 2 milliards et demi d'euros, dont...
Est-ce qu'il a pris des mesures contre les travailleurs étrangers?
Et dans les 2 milliards et demi, il est prévu qu'on revienne en arrière sur un avantage fiscal qui avait été supprimé sur les étudiants étrangers, les étudiants qualifiés, de manière à répondre aux attentes d'ASML, car c'était l'élément déclencheur de sa possible délocalisation. Et pourquoi pas en France, d'ailleurs, avait-il dit. Ils ne sont pas forcément là en train d'aller draguer les milliards de Joe Biden et de l'IRA. Bon, on aura l'occasion.
Il n'y a pas qu'aux Pays-Bas, quand vous regardez les réactions des universités françaises, et particulièrement des plus réputées d'entre elles, lorsqu'il y a eu la loi immigration avec la suppression d'un avantage, un durcissement pour les étudiants étrangers, la réaction a été immédiate. Et c'est un enjeu méconnu. Et si on ne fait pas attention, ça peut faire très mal et à long terme.
Enfin, en tout cas, le message de l'ASML, c'est de dire sans population étrangère, je ne tourne pas sur le sol.
Mais prenez les grandes universités françaises, l'école d'économie de Toulouse, qu'Augustin Landier connaît bien. Il y a 80%, je crois, des doctorants qui sont des étrangers. Si vous interdisez les étudiants étrangers de venir, on a un petit problème pour la qualité de l'école.
Une école très internationale aussi, maintenant.
En plus, le problème des Pays-Bas, c'est que le taux de chômage est structurellement très bas. Et qui a très probablement des pénuries de main-d'œuvre.
Non, mais c'est bon, c'est un sujet intéressant. Merci d'avoir été là aujourd'hui pour débattre et évoquer le rating de la France. Un peu plus dans le détail que d'habitude avec Augustin Landier, Jean-Pierre Petit, Jean-Marc Vittori. Rendez-vous à 9h lundi et vous serez avec Stéphane Pedrazzi.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.